Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Alors soyez les bienvenus à ces nouveaux numéros de YouJob, votre émission qui vous permet d'acquérir de nouvelles connaissances sur les milieux de l'emploi, découvrir également de nouvelles innovations et des nouveaux projets en République démocratique du Congo, en Afrique et ailleurs. Ce soir, l'émission va être vraiment plus pédagogique. Il y aura beaucoup de conseils qui vous seront partagés. Pourquoi pas avoir, comme d'habitude, son bloc-notes à côté et un stylo pour noter des points essentiels. J'ai un réel plaisir de recevoir ce soir notre spécialiste. Nous le recevons chaque dernière semaine de mois et pour ces mardis 29 octobre, donc le tout dernier mardi du mois d'octobre. Nous recevons Ray Motema. Bonsoir Ray.
Bonsoir Stéphie.
Ça devient de plus en plus une habitude de vous recevoir dans notre émission pour discuter des questions liées à l'employabilité et encore un peu plus au recrutement. Je vais rappeler que vous êtes Project Officer Kilo Bantu et spécialiste en matière d'acquisition des talents. Vous êtes également conseiller en employabilité, d'où donc votre présence qui nous est très importante pour toutes ces questions liées à l'emploi. Ce soir, notre discussion est axée vers l'université, les étudiants, qui constituent d'ailleurs une grande partie de notre audience. Beaucoup d'étudiants nous suivent. Alors aujourd'hui, notre discussion, c'est dans le sens de savoir comment valoriser son parcours académique en étant étudiant. Il se pose beaucoup de questions. Je suis étudiant, je fais 3 ans à l'université, mais on va dire, aura professionnel, les athées, les avenirs et promettre tes discours à la ramoro, moussa les athées namboka.
Tout à fait.
Oui. Alors, comment valoriser son parcours académique? C'est notre grande question. Mais avant ça, il y a d'abord une question qu'il faut se poser, Ray. Un parcours académique veut forcément dire insertion professionnelle. Est-ce que ça, aux autant, hein? Il faut qu'on se les dise, moi, directement, aux anamois, pas professionnel.
Merci, Jack Costéphie, pour cette belle opportunité. C'est en tout cas pour moi un plaisir d'être là à nouveau. Et surtout, c'est un plaisir d'échanger, d'une certaine manière, avec le public qui nous écoute. Ta question est intéressante, elle est pertinente. C'est effectivement la question que tout le monde a, notamment les étudiants, se posent. À cette question, je dirais que l'université ou bien le parcours académique est une initiation, effectivement, à l'employabilité, à un emploi. Ça ne veut pas dire que forcément vous aurez cet emploi ou pas, mais ça vous permet, ça vous prépare d'une certaine manière. En d'autres termes, je pourrais dire que ce système universitaire de l'université est en quelque sorte en miniature la représentation du monde professionnel. Parce que vous êtes dans un environnement structuré où vous apprenez certaines théories, certaines compétences, mais pour quel but? Eh bien, le but de vous préparer à quelque chose. Et c'est quoi la suite? Nous savons tous, pour la majorité des personnes, c'est soit directement trouver un emploi. Pour d'autres, peut-être, c'est dans l'entrepreneuriat ou bien dans l'auto-emploi. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette réflexion-là.
Alors, on parle alors donc d'expérience académique, mais est-ce qu'il y a mariage entre expérience académique et est-ce qu'on peut inscrire sur son CV pour aller chercher un travail et dire que j'ai une expérience pour être embauché?
J'y arrive. En fait, ici, nous allons essayer un peu de circonscrire le cadre. Okay, nous allons éviter d'aller dans le sens où nous critiquons le système académique au Congo. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mais ici, l'idée, c'est de savoir si effectivement, est-ce que le fait de passer là-bas nous prépare d'une certaine manière à quelque chose pour le monde de l'emploi. J'ai dit tout à l'heure que le monde universitaire, que ce soit l'université ou bien les écoles supérieures, c'est l'entreprise en miniature. En quel sens? Vous avez des structurations, n'est-ce pas? Et je crois que très souvent, tu reçois différents étudiants. Et parmi ces étudiants, vous avez ce qu'on appelle les chefs. Comment vous les appelez déjà?
Les chefs de promotion.
Voilà, les chefs des promotions, les présidents des étudiants, etc. Même quand on recule encore un peu en arrière à l'école, aux humanités, nous avons les chefs des classes, n'est-ce pas? Les bidèles. Je vous explique. Dans une entreprise, vous avez qui? Vous avez les managers. Vous avez des fois le PDG ou bien le créateur de l'entreprise. Dans une université, ça peut être le recteur, ok ? Dépendamment du statut de l'université. Ensuite, vous avez effectivement, vous avez hein, les managers, etc. qui peuvent représenter qui ? Les professeurs. Ensuite, vous avez des fois dans des universités ce qu'on appelle des team leaders, qui dans le contexte de l'université peut représenter effectivement nos les différents chefs de promotion. Quel rôle jouent les team leaders ? Ils sont là pour faire quoi ? Pour essayer de transmettre effectivement les informations via les objectifs de la hiérarchie, n'est-ce pas ? La même manière que font les chefs des étudiants, ils partagent ces différents éléments et résout des problèmes à leur niveau, ensuite pour remonter aussi l'information. Est-ce que vous voyez l'image ?
Ce qui veut dire que ce qu'on fait en étant chef de promotion, en étant étudiant, c'est-à-dire qu'on gère tout un groupe des personnes, quelque part, c'est aussi des compétences de gestion.
Ça vous donne exactement déjà une image de ce que vous verrez presque tous les jours dans le monde de l'emploi. Donc des fois, sans les savoir, ce simple environnement vous prépare déjà à l'employabilité ou des fois même à être votre propre boss.
Donc là, on veut dire que tout ce qu'on fait à l'université, nous devons essayer de les rapprocher un peu à des activités professionnelles et en prendre conscience. Ça veut dire, quand on est chef de promotion, je gérais pendant 3 ans une promotion et quelque part, on acquiert cette expérience.
Imaginez-vous. Exactement, je vous donne un exemple. Au Congo, on a des grandes universités. Hein. C'est combien des
1000 étudiants, 700 étudiants,
500 étudiants. Des fois même plus, vous avez des auditoires, des fois des 500. Vous avez un chef d'étudiant. Bon, un chef de promotion, sinon les promotions, mais des fois, vous avez un chef qui gère des fois tout, hein, toutes les classes hein, de G1, délégué. Voilà, délégué, tout ça. C'est combien de personnes qui gèrent ? C'est combien de personnes pour qui ils traitent les problèmes ? Savez combien des professeurs qui sont comme des managers avec qui ils interagissent ? Savez combien des personnes qui font des rapports, que ce soit from top to down ou bien down to top ? Et bien, tout cela, en réalité, est une expérience professionnelle que ce dernier est en train de valoriser. Tout à l'heure, jusque-là, on prend seulement l'exemple de chef de promotion. Nos amis à l'école ou à l'université qui organisaient tout ce qui est, comment on appelle ça déjà, vous voyez, hein, les journées culturelles, toutes les cérémonies. C'est des personnes qui arrivaient à faire appel à des stars, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
C'est des personnes qui arrivaient à faire tourner la billetterie, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
C'est des personnes qui arrivaient à
communiquer.
À communiquer. C'est des personnes qui arrivaient à mettre en place des systèmes logistiques des fois complexes. Ça ne vous donne pas une idée de quel emploi il s'agit ?
Bien sûr.
De quel emploi, par exemple ?
Ils sont, par exemple, dans l'événementiel, déjà.
Événementiel, community manager et autres. Sans que ce dernier n'ait fini la fin. Imagine-toi, depuis la première année, ce qu'il fait, jusqu'en cinquième année. Vous avez des universités comme l'Unikin, où il arrive à mobiliser 5 000, 2 000, 3 000, 4 000, voire même 5 000 étudiants. Il arrive à faire venir des stars de la musique, que ce soit de la musique, de l'art, peu importe. Hein, tout, voilà, je ne vais pas nécessairement citer les noms. Mais c'est exactement des compétences dont on a besoin du monde professionnel, dans l'événementiel comme dans la logistique. Là, je vais donner des exemples, des éléments plus ou moins phares qu'on voit à l'université, mais on a beaucoup d'autres. Nos étudiants, nos amis étudiants, par exemple, qui gèrent les bibliothèques, etc., qui gèrent les laboratoires ou autres. Ce sont des compétences qui sont en train de développer et qui peuvent être très bien valorisées pour un emploi.
Alors, il y a des aspects que j'aimerais soulever par rapport à ces points. Il y a ces étudiants qui se démarquent. On va dire qu'ils se démarquent. Alors, il y a deux aspects que je veux soulever. Ils se démarquent. Et comme partout au monde, il y a toujours certains qui voient la lumière et d'autres non.
Tout à fait.
Oui, il y a toujours certains qui brillent et d'autres non. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, c'est qu'il y en a ceux-là qui font ça, malheureusement, dès qu'ils sortent de l'université, ils se perdent.
Très bien.
Ils ne mettent pas cela en valeur.
Très bien. C'est alors, parce qu'effectivement, ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils ont des compétences. Ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils sont prêts, d'une certaine manière déjà, à une certaine forme d'emploi ou bien à un premier emploi. Mais là, c'est si. Partout, effectivement, vous avez souvent ce qu'on appelle, c'est pas dans un sens péjoratif, hein, vous avez des leaders, comme tu dis, celui qui voit très souvent plus vite la lumière, vous avez aussi des followers. Même parmi les followers, lorsque ce monsieur-là organise une présence d'étudiants travaille, est-ce qu'il travaille, il fait tout le travail seul ?
Non.
Il fait avec une équipe. Chaque membre de cette équipe, peu importe la position ou le rôle qu'il occupe, est en train de développer certaines compétences. Mais simplement, il ne le sait pas. Mais quand on prend conscience de cela, c'est effectivement des compétences que l'on peut ensuite approfondir. Nous avons eu des groupes de travail. Très souvent, il y avait un étudiant qui facilement faisait quoi ? Il s'est démarqué. Là, ça n'a rien à voir avec les chefs de promotion, etc. Celui-là qui se démarque, on se rend compte qu'il a une forme de compétence en leadership, en gestion. Il arrive à dire, OK, on va partager le travail de telle manière. Il y avait l'autre, lui, fait quoi ? Il dit, faites tout le travail, moi, je veux faire la mise en page excellente. L'autre vous dit, faites tout ce que vous voulez faire, mais moi, je vais gérer la logistique. C'est-à-dire quoi ? Le temps où on doit arriver, le moment où on doit soumettre le travail. Vous vous rendez compte que c'est vraiment une... C'est comme si on était dans un département, chacun avec un rôle. Maintenant, vous avez fait ça durant 5 ans. Si chacun capitalise ça chaque année, on comprend ce que ça veut dire.
Donc, le problème ici, c'est de savoir capitaliser, mettre en valeur et savoir même organiser ses compétences qui sont désordonnées.
Voilà. Désordonnées. Et des fois, des compétences qu'on découvre juste parce qu'on a fait quelque chose. On ne soupçonnait même pas avoir ces différentes, vous voyez, ces différentes compétences. Là, j'ai parlé des compétences que vous êtes en train d'acquérir parce que vous êtes dans cet environnement. Mais ce n'est pas fini. Toutes les notions qu'on apprend à l'université, obsolètes ou pas, sont des notions importantes que des fois nous n'appliquons sans se rendre compte que nous appliquons dans nos différentes activités. Ceux qui sont en gestion, par exemple, on va leur parler du management ou bien une expression qu'on disait prévoir, organiser, voilà. Ceux qui ont fait commercial vont se rappeler. Ce principe-là, eh bien, tous les étudiants qui sont chefs d'étudiants ou bien chefs de groupe le font. Maintenant, imaginez-vous un étudiant qui se dit « Ah, j'ai appris tel concept aujourd'hui. Moi, je suis dans un groupe d'étudiants de 12 élèves. » Je vais essayer d'appliquer ceci. Un étudiant qui a le cours de leadership et d'intelligence émotionnelle à l'école, à l'université, on lui dit que voilà, tu peux développer la capacité à comprendre les émotions des autres, même si ces derniers, par exemple, te sont énervés, de te dire, de comprendre la raison de cet énervement, mais pas le fait qu'il s'est énervé. Imagine-toi, vous êtes en train de préparer les examens. On a toujours des étudiants paresseux, n'est-ce pas ? Mais ce type qui n'est même pas le leader du groupe, il vient. Il voit l'étudiant paresseux. Je ne sais pas ce qu'il fait, il discute avec lui, il arrive à remotiver l'étudiant paresseux, par exemple. Il voit l'étudiant conflictuel, il arrive à travailler avec lui, l'étudiant conflictuel fait ce qu'il a à faire. Finalement, vous soumettez en temps et en heure. Les notions qu'il a apprises à l'école, à l'université, quand il applique effectivement dans son environnement, il a des résultats. Mais dans 10 ans, ces personnes avec qui il travaille, où est-ce qu'ils se retrouveront pour la majorité d'entre eux ? Ils se retrouvent dans le monde de l'emploi. En réalité, vous vous étiez d'une certaine manière déjà initié à ce que vous verrez là-bas. Cette façon de voir pourrait aider beaucoup, en tout cas, à valoriser leur parcours.
Ce que je note de cette première question, c'est qu'il faut savoir capitaliser la moindre activité qu'on peut exercer à l'université pour développer ses compétences et savoir, bien sûr, comme on dit, capitaliser. On peut se dire, OK, je développe plus mes compétences en ça, je vois que ça marche, je peux devenir peut-être un consultant en ça, en la matière. Donc, c'est la première chose que je note. Mais à côté, on disait que ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui s'y met. Est-ce qu'un étudiant ne peut pas se dire avoir terminé son parcours académique de 5 ans sans expérience professionnelle ?
En réalité, comme je viens de le dire, dire qu'il n'a aucune expérience, je comprendais ce qu'il veut dire par là, mais il faudrait essayer de c'est quoi l'expression ?
Relativiser.
Voilà, relativiser les choses, ok ? Je vais m'expliquer. Le monde professionnel a besoin de certaines compétences spécifiques, ok ? Mais vous avez certains de ces emplois. Là, je reviens à une question importante. Certains emplois qui vous demandent de compétences fortes, de compétences qu'en réalité, il faut se le dire, qu'on n'a pas, soit l'université ne nous a pas donné ça, soit on n'a pas eu l'occasion de développer ces choses-là. Et très souvent, ce genre de postes, ce ne sont pas de postes entry-level d'entrée, hein, et les postes qui demandent c'est déjà un certain nombre d'années d'expérience. Mais vous avez aussi de ces postes, les recruteurs ne vont pas forcément vous le dire, de ces postes pour lesquels on a besoin peut-être, on vous dit, de 0 à 3 ans, des fois même jusqu'à 5 ans. Mais ce que le recruteur y recherche, c'est quoi ? Ce n'est pas en réalité les nombres d'expérience, c'est est-ce que tu es capable de faire cette chose-là ? S'il est capable de faire cette chose-là, parce qu'effectivement, tu as eu à mener des activités, pas seulement à l'université, hein, dans ta communauté, ça va plus loin. Dans ta communauté, certains sont peut-être dans une communauté, hein, des fois c'est religieuse, des fois c'est des communautés dans les quartiers. Si vous avez eu à avoir des résultats par rapport aux actions que vous menez et que ces actions-là correspondent effectivement à une compétence, effectivement, votre parcours de vie, comme votre parcours de l'école, vous a donné des compétences pour ce premier emploi-là. Parce qu'on commence très souvent, il faut être sage avec ces questions de recrutement. Pour quelqu'un qui vient de finir l'université, qu'il ait eu à capitaliser ou pas, très souvent, il commencera par ce qu'on appelle des entry level, les premiers emplois. Et ensuite, ensemble, avec ce métier, il développera des compétences qui l'amènera effectivement un peu plus loin.
Alors, on va faire ça de façon plus pratique. Je me dis, je m'appelle Job, je suis un étudiant, je suis chef de promotion à l'ISC depuis mes débuts à l'université, depuis 3 ans. Alors, j'ai géré ma promotion. En ce moment, on me nomme délégué facultaire. Et après, j'organise un événement au sein de la faculté. J'ai réussi à réunir plus de 800 personnes. L'événement est un carton. Tout le monde en parle. Tout ça. Et je termine mes études. Je m'arrête là. Ok, j'ai fait mes 3 ans à l'université. Je pense que, voilà, en ce moment, je n'ai plus de moyens pour continuer. Est-ce que je peux me présenter ? Je n'ai aucune autre expérience professionnelle quelque part dans une entreprise. Non. Mais du moins, je fais cela. Alors, est-ce que je prends mon CV ? Je présente que non, j'ai été pendant 3 ans chef de promotion et j'étais délégué facultaire, j'ai organisé un grand événement qui a accueilli 800 personnes. Est-ce que le recruteur l'accepte aussi?
Je vais reprendre ta question avec plusieurs cas. Là, on est sur la question de compétence expérience, n'est-ce pas? La compétence, c'est quoi? C'est la capacité qu'a quelqu'un à mener de bout en bout une action ou une certaine activité. Un projet qu'on lui demande de faire. Si le poste pour lequel tu appliques, dans le cas de Job, n'est-ce pas, consiste effectivement à l'événementiel, à organiser X, Y, Z, à organiser des projets, etc., et qu'on vous dit que c'est un poste, par exemple, d'assistant événementiel, vous avez toutes les chances, en réalité, d'avoir ce poste-là. Maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle la discrétion du recruteur. Notez ceci. Chaque entreprise, chaque recruteur a leur critère. Les stratégies qu'on vous donne ne signifient pas que ce sont des stratégies qui vont marcher à 100%, mais ça vous donne plus de chances et une manière différente de penser les choses. Un recruteur qui cherche un senior ou bien un manager événementiel ne va pas vous recruter parce qu'à son niveau, ce n'est pas suffisant. À moins que, pendant que vous organisez ce que vous avez organisé, imaginez que vous organisez ça, mais que vous avez organisé vous-même un événement où vous avez la présidence qui est venue, vous avez des personnes importantes, ou bien peut-être vous avez fait un jumelage récemment à qui on a eu les étudiants d'Harvard. Vous avez pu organiser un événement, par exemple, avec ces gens d'étudiants qui sont arrivés. Même un jour d'expérience qualitative vaut plus que 10 ans d'expérience normale. Parce qu'arriver, vous imaginez la logistique qu'il faut, bien l'organisation qu'il faut pour recevoir des autorités. Mais vous avez su le faire, sur 1 an, 2 ans. Et vous avez quelqu'un d'autre qui, depuis 10 ans, n'organise que... Bon, je ne vais pas minimiser les concerts, mais n'organise que...
Comment on appelle ça? Kermesse.
Voilà, n'organise que des kermesses. Si vous mettez les choses sur la balance, un recruteur se dira, il a fait ceci... Il a une notion, il sait travailler avec les autorités, il connaît le côté sécuritaire, le côté protocole, etc. Eh bien, je lui donne la chance. Quelle chance? D'abord d'être reçu pour un entretien. Et c'est lors de l'entretien que vous déballez. Parce que dans l'entretien, vous déballez effectivement que vous avez fait ceci, voilà les contraintes que vous avez. Voyez un peu l'impact que cela peut avoir.
Donc, il y a 2 réponses ici aux étudiants qui assurent quelques postes à l'université. Faites un effort de capitaliser avec et allez au-delà. Allez jeter un œil aussi sur ceux qui sont dans le milieu professionnel, dans ces mêmes genres d'activités que vous faites à l'université pour essayer encore de grandir dans ces sens. Et à ceux, malheureusement, il y a à l'université certaines personnes qui ne font rien. je suis à l'université, mais je suis timide, je n'arrive pas à demander. Parfois, tu as envie, mais tu ne parviens pas à approcher les autres pour gagner un poste, parce que le poste aussi, ça se cherche, hein, et ça ne tombe pas du ciel. Et il y a ces personnes, malheureusement, qui, après 5 ans à l'université, n'ont rien foutu. À ça, je pense que les conseils seraient de...
Oui, effectivement. Alors, ce conseil s'adresse à tout le monde. Que vous soyez déjà dans cette roue qui tourne, que vous ne le soyez pas, le plus important pour vous, c'est de dire quoi ? C'est de vous dire que là où vous êtes capable de capitaliser ce que vous êtes en train de faire. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que très souvent, ces étudiants qui se démarquent vont finir très souvent dans des postes de responsabilité, n'est-ce pas ? Leader, manager, etc. Après, vous avez une autre catégorie d'étudiants qui sont aussi bons, etc., qui ne sont pas démarqués comme les autres, mais qui seront excellents dans leurs activités. Je donne un exemple. Vous avez un étudiant, lui, il n'est pas dans toutes ces organisations, mais il est, par exemple, très bon dans les différents cours. C'est-à-dire que lui est toujours ponctuel, il fait vite son travail, comptabilité, gestion, il est excellent. Ce dernier, quand il va finir les études, aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois, les entreprises le font. Comme on dit, vous avez les banques, par exemple, qui les font. Hein. Ils disent qu'ils prennent des étudiants, les jeunes de tel âge à tel âge, entre 0, par exemple, et 3 ans d'expérience professionnelle. Ce dernier, quand il va passer les tests, qui réussit, c'est les tests de gestion de comptabilité. Demain, il se retrouve dans une entreprise, OK, où il est dans la gestion et dans les finances. Mais il sera bon dans ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a très bien appris déjà à la fac. Il a maîtrisé ce qu'il faisait, il a réussi les différents tests et autres. Il sera très bon dans ce qu'il va faire. Et avec un coaching, soit individuel, bien de la part des autres, il pourra progresser à son rythme et évoluer. Ici, le plus important, ce n'est pas de se dire qu'on doit tous avoir les mêmes responsabilités, les mêmes choses. Non, ce n'est pas ça. C'est que la finalité de quelqu'un, quand il va dans les études, c'est de trouver des opportunités. Que ce soit par l'entrepreneuriat, je reviens sur ça, que ce soit par un pas par un emploi, à une position voilà, de leadership, de management, ou juste à une position d'exécution. Tant qu'on en tient, on en retire son plaisir, tant que cela nous permet, par exemple, de souvenir à ce qui est important pour nous. C'est quoi qui est important pour toi ? Est-ce que c'est le manger, le boire et payer tes loyers ? It's fine, c'est bon. Si pour toi, c'est un peu plus que ça, effectivement, tu devras travailler beaucoup plus. Mais l'idée reste la même. Hein? Peu importe ce que nous faisons, capitalisant les moments ou les endroits dans lesquels nous sommes.
Ça, c'est bien. Il y a ceux-là qui excellent. Mais maintenant, on parle de ceux qui n'excellent malheureusement pas, qui sont restés comme ça, qui voient les autres exceller. Et à la maison, c'est-à-dire que ça arrive. Hein. Tu stresses même. Tu dis, je suis à l'université, je vois les autres avancer. Mais moi, je ne sais pas comment je vais avancer. Comment je peux, moi, également créer quelque chose. Moi aussi, ça, je peux tenter de faire ça. Mais personne ne croit en moi. Personne ne me donne la possibilité parce qu'à l'université, il faut avoir une certaine influence. Il faut aussi se battre. Comment acquérir des expériences professionnelles en tant qu'étudiant.
C'est ça que je viens de redire. Vous avez un niveau où on se voit très souvent, hein, où on a, voilà, c'est quoi l'expression que je peux utiliser, un niveau de responsabilité CP ou autre. Voilà, on n'est plus dans ce cadre-là. Mais j'ai dit, vous avez des groupes. Vous travaillez par groupe, n'est-ce pas ? J'ai donné un exemple tout à l'heure. Dans un groupe, chacun est important par rapport à un élément qu'il apporte. Certains maîtriseront très bien la matière, l'autre pourra être capable d'organiser les choses, etc. Moi, je me rappelle par exemple que nous avions des matières que je ne comprenais jamais à la fac. Tout ce qui est lié aux mathématiques et autres. Qu'est-ce qu'on faisait ? Comme j'arrive par exemple à communiquer, à parler, moi je me disais, je suis celui qui va essayer de fédérer tout le monde, organiser les choses. Ils font tous les calculs, toutes les recherches, ils me disent, voilà, les résultats de notre étude, c'est ça, 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 ça. Au moment de présenter, moi, comme j'aime parler, par exemple, etc., et qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai mis à faire quoi ? À présenter. Alors que j'étais nul dans tout ce qui est en train d'être fait. Pourquoi je dis ça ? Il est important pour cet étudiant-là, même s'il n'est pas brillant, entre parenthèses, hein, comme les autres, il est possible d'arriver à découvrir, plus ou moins, dans quel domaine, quelle matière ou bien quelle chose l'intéresse. Des fois, il est à l'université parce que, ça, on va arriver à notre sujet, il est à l'université parce qu'on l'a obligé d'aller à l'université. Dans ce genre de cas, soit il essaie de s'adapter, soit il essaie de découvrir en réalité c'est quoi, comme on dit, son why. C'est quoi cet élément qui les motive tous les jours. Et c'est sur base de ça qu'il pourra développer quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui a la fac. Il y a une communication autre. Alors que lui avait un talent, peut-être, je ne sais pas, pour la musique, bien, je ne sais pas, pour l'art, etc. Mais s'il arrive à découvrir cela, il peut mener des actions pour finalement se retrouver dans ce qu'il veut faire. Vous voyez un peu ce que je
veux dire. Je comprends très bien. On entre d'ailleurs dans cette question, comment identifier ses compétences. Donc là, il faut premièrement savoir que tout le monde peut avoir à développer ses capacités à l'université, à avoir au moins une activité. Et en gros, comment on identifie ses compétences?
Très bien.
On va aussi à l'université, c'est parce que c'est un choix des parents. Les parents, très souvent, les parents sont très
exigeants.
Moi, je veux que mon enfant devienne docteur. Moi, na style ici, na faculté, na option m'soussou, tamsou, y'a pas d'akina bani, na t'aime pas le bio salon. M'soussou, non, moi, je veux que tu fasses le droit, les parents. Mais moi, au départ, c'est pas vraiment son goût. Et l'entourage aussi, comme tu l'as dit, ou voire même l'enfant peut s'être trompé aussi.
Tout à fait ça.
En réalité, il est plus fort en ce qui concerne les lettres ou la communication, mais il va faire la construction.
Très bien. Alors, moi, j'aime cette phrase puissante hein, qui est souvent attribuée à Einstein. La phrase dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez la capacité d'un poisson à grimper sur un arbre, il passera toute sa vie à penser qu'il est stupide. » Est-ce que tu comprends un peu ce que...
Très bien. Le poisson, c'est la nage. Le poisson, ce n'est pas monter sur un arbre.
Prenez l'image. Est-ce qu'un poisson, peu importe ce que vous faites pour ce poisson-là, vous le mettez devant un arbre, est-ce qu'il saurait faire quelque chose? Eh bien, ce poisson, s'il réfléchissait, il se dirait que je ne sers à rien. C'est comme un étudiant qui se retrouve dans une faculté, dans un environnement où il ne comprend rien. C'est compliqué, il va penser. Déjà, ça va développer malheureusement en lui un état d'esprit, un mindset à penser qu'il est nul, voilà, qu'il n'est pas capable de faire les choses. Dans les pires des hasards, si c'est fort, si c'est dit, ok, je suis quand même un poisson courageux, parce qu'on voit des fois le poisson, quand vous le sortez de l'eau, il fait quoi? Il saute. Si c'est dit, ok, je vais me battre, il peut y arriver, mais des fois, il va s'épuiser. Et c'est possible qu'il fasse quoi? Qu'il se blesse, qu'il suffoque, etc. C'est-à-dire que certains, dans un moment, vraiment, il se bat, il va en G1, G2, G3, tu vois, si, mais c'est compliqué. Alors que ce même poisson, si vous le jetez dans l'eau, c'est un dieu. De la même manière qu'un singe est utile sur un arbre, mais pas forcément de l'autre côté. Pourquoi cette phrase est importante? C'est que qui que vous soyez, en chacun d'entre nous, nous avons des forces et des faiblesses. Le plus important, c'est de savoir les trouver et les identifier. Comment trouver et identifier? C'est pas toujours évident. Déjà, quand on est jeune, quand on grandit, bon, déjà, chez les adolescents, au début de l'université, on suppose qu'on est en fin d'adolescence. Mais la fin de l'adolescence et cet âge adulte, l'homme évolue. C'est-à-dire que même par rapport à nos perspectives, ce que je voulais faire à l'école primaire aux humanités n'est pas forcément ce que je vais faire aujourd'hui. Parce qu'on rencontre beaucoup de choses dans notre vie, tu vois, non? Les perspectives évoluent. Mais il y a un concept très utile qui aide beaucoup, c'est le concept des intelligences multiples d'un professeur Gardner, un professeur américain Gardner. C'est un psychologue. Il dit qu'en tout, chacun d'entre nous a une affaire de 8 compétences hein, que nous avons. Nous avons des compétences linguistiques, mathématiques, artistiques, etc. Il y en a plusieurs. Nous avons toutes ces compétences, sauf qu'elles sont développées différemment chez nous. Par rapport à quoi? L'environnement. L'environnement, ça peut être la famille, le quartier, par rapport à certains dons naturels que nous avons. Maintenant, comment est-ce qu'on peut arriver à développer ces compétences ou bien à les identifier? À l'époque, ça existe toujours, mais ce n'est pas très, très efficace. On avait ce qu'on appelle des conseillers d'orientation. Que ce soit à l'université ou bien à l'école, là, on vous dit, OK, par rapport à vos notes, par exemple, on se rend compte que voilà, c'est telle matière que vous maîtrisez, ça correspond à ceci, cela. Alors nous, au niveau de Sodeco Développement, nous sommes en train de travailler sur un projet dont je tais encore le nom pour l'instant, mais qui nous permettra d'aider, que ce soit ceux qui sont à l'école primaire, aux humanités, à l'université, d'identifier leurs compétences et leur permettre de faire des meilleurs choix de faculté ou de carrière. Il y a un outil qu'on appelle le Skills Map, ok, Student Skills Map en anglais. En français, on peut dire la carte de compétences de l'étudiant, peu importe que c'est étudiant ou professionnel. Qu'est-ce qu'il fait? Par rapport à votre parcours scolaire et extrascolaire, on arrive à identifier les compétences, les aptitudes ou les habitudes que vous avez. Sur une certaine durée, sur un certain nombre d'années, le rythme ou bien le nombre de fois que reviennent certaines compétences, que vous maîtrisez ou pas, que ce soit de manière scolaire, comme j'ai dit, à la fac, à l'université, comme extrascolaire dans les communautés, en famille. Quand on parle de Clostéphie, on voit quoi? Quand on parle de Clostéphie, quelle est la plus belle qualité qui ressort? Ça vous permet de faire quoi? De les mettre en groupe. Maintenant, une fois que vous avez mis en groupe sur une certaine durée, ça vous permet de prendre chaque compétence. Quel est le rôle de cette compétence selon les familles des métiers? Et à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça vous sort les métiers, bien les compétences que vous avez, disons, naturellement, les compétences que vous pouvez développer, vous pouvez avoir si vous pratiquez, bien si quelqu'un vous mentor, des compétences que vous pouvez avoir, oui, mais que vous pouvez avoir moyennement. C'est-à-dire qu'on vous dit de faire ça, vous le faites, pas nécessairement avec maîtrise, pas nécessairement avec passion, mais vous êtes capable de les faire. Et les compétences pour lesquelles il vous est très difficile de faire quoi? De les faire. Et ces quatre familles de compétences vous ressortent maintenant une grande famille des métiers. Pourquoi c'est utile? Parce que ça te permet de voir, selon les compétences que tu possèdes, comment on a identifié ces compétences. Ton parcours, ton environnement et aussi ce que disent les autres. Quand on voit ton environnement, on voit aussi la famille. Souvent, on minimise ce que peuvent dire la famille, mais non, c'est important. Pourquoi? Ils ont une vision, ils te connaissent d'une certaine manière. Ils ont une vision, tes parents ont une vision de toi. Ils ont une vision du pays, de l'économie. Peut-être que toi, à ton niveau, tu n'as pas forcément. Alors, lorsqu'on prend en compte tous ces différents éléments, et ce que le skills map t'apporte, et ce que peut penser ton environnement, et ce que toi-même, tu peux penser, quand on réunit tout, on additionne. Hein? Ce n'est pas qu'on prend individuellement. Non, on additionne tout, et bien ça nous donne une carte. Et une carte sert à quoi quand on est dans un environnement?
À s'orienter. Ok, donc c'est vraiment une très bonne chose. Mais comment on se fera ces tests? Il faut beaucoup de jours d'exercice. Il faut passer à l'écoute des candidats. Qui seront ces candidats? Des étudiants, des professionnels?
Ce programme sera, en réalité, va concerner les élèves, les étudiants et les professionnels, souvent en début de carrière. Demain, ça va évoluer. C'est des programmes qui seront soit déjà lancé dans certaines institutions, soit aussi individuellement. Les personnes individuellement pourront toujours nous contacter pour effectivement avoir accès à ces différents outils. En fait, ce n'est pas un test, mais c'est un outil qui vous permet. C'est vraiment, voilà, c'est comme vous aviez un échange avec un conseiller ou bien un psychologue.
Ah, ok, comme outil d'orientation.
Voilà, donc.
Après ces passages à cet examen, on ressort avec des meilleures
perspectives.
Des meilleures perspectives.
Voilà, des meilleures visions, voilà, une meilleure structuration de ce qu'on aimerait effectivement faire. Donc, vous saurez que ici, c'est mort pour moi. Ici, ça sera comme dans l'eau. Bien sûr, il y aura des obstacles. Ça sera comme un poisson dans l'eau. Ici, c'est quel animal qui n'est pas un poisson, mais qui est capable de nager? Donne-moi l'exemple.
Un animal qui?
Un animal... vous avez les antilopes, ok? Ils courent très bien, l'antilope. Mais l'antilope traverse aussi des rivières, n'est-ce pas? Surtout quand c'est certains cours d'eau. Donc ici, tu peux te dire, ok, ici, je pourrais passer dans l'eau, même si chez moi, c'est la terre, mais je suis quand même capable de passer dans l'eau. Donc, c'est faisable pour moi. Alors, vous aurez toute cette perspective. Et là, effectivement, la marge d'erreur ou bien de déception, elle va toujours exister parce que ce n'est pas parfait, c'est l'humain. Mais elle sera quoi? Elle sera, en tout cas, de manière importante, réduite.
Alors, tout ce qu'on fait est valorisé sur un document, le document que nous appelons cursus et curriculum vitae CV. Donc, quand on est étudiant, on est appelé à avoir un CV, même si on ne travaille pas.
Oui, c'est vrai.
Et ce qu'on met dans les CV, c'est ce qu'on fait à l'université.
Oui. En fait, ce que je vais dire, comment je pourrais répondre à cette question? Quand vous avez une offre, lisez attentivement. Vous avez ces entreprises qui vous dit clairement qu'ils n'ont pas besoin des jeunes en début de carrière.
Mais vous postulez quand même.
Ne postulez pas. Parce qu'en réalité, vous n'avez peut-être 0,99% de chance. Peut-être, voilà, peut-être à peu près 1%. Hein. Mais très, très, très généralement, on ne vous prendra pas.
Donc, il faut arrêter d'abord, premièrement. Tobetara, oui, c'est Simbe, Simbe. Au moins, il y a offre.
Il faut savoir cibler.
Au moins, offre au Tini.
Tu vois,
énergie à part.
Voilà, ça c'est un élément. Il faut savoir cibler. Deuxièmement, vous avez ces entreprises, effectivement, qui vous disent clairement. Entre 0 et 3 ans. Des fois, entre 1 ou 2 ans, 3 ans. Si vous avez entre 1 ou 2 ans, 3 ans, vous pouvez effectivement valoriser votre expérience au niveau de quoi? Au niveau de l'université. Maintenant, si on vous dit ceci, qu'ils n'ont que besoin d'expérience professionnelle, qu'est-ce que vous faites dans votre CV? Okay? Vous mettez vos informations, ce que vous avez, hein, voilà, ce que vous avez étudié, etc. Et c'est professionnel, vous pouvez, si vous avez eu à faire des stages, hein, vous pouvez probablement mentionner les stages, mais une astuce, c'est laquelle ? Soit dans les CV, vous créez un portfolio électronique, ou bien vous annexez. Hein, vous créez un portfolio, vous annexez sur votre CV les différentes activités que vous avez eu à faire, surtout votre rôle et l'impact et les résultats de ce que vous avez eu à faire. Prenons le cas de quelqu'un qui est dans l'événementiel au niveau des écoles. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut dire expérience événementielle, entre parenthèses, au niveau de... Il mentionne que c'est au niveau de l'université, mais il peut faire juste une petite phrase. Il dit, voir en attache mon portfolio. Voilà. Mais imaginez-vous que le recruteur, il voit ça. OK ? Un très bon portfolio. Vous avez organisé ceci. Mais je vous dis, si c'est pour un poste qui n'est pas du management, ce dernier, probablement, s'il est de bonne foi, vous contactera. S'il ne vous contacte pas nécessairement pour travailler avec lui, peut-être qu'il vous contactera en tant que consultant ou même en tant que stagiaire. Parce qu'il voit effectivement quelque chose, vous voyez, non ? quelque chose en vous. Mais ce qu'il faut peut-être éviter de faire dans un CV, c'est vraiment qu'au niveau des expériences professionnelles, vous écriviez aucune. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas nécessairement une expérience dans une entreprise reconnue par l'État, mais vous avez quand même une expérience soit académique, soit de vie dans votre environnement. Parce que vous savez, souvent, on confond. Quand on parle d'expérience, on ne voit pas nécessairement le fait que vous avez travaillé dans une entreprise. Mais est-ce que vous avez déjà eu à mener des actions, à faire des activités dans un environnement structuré ? Et est-ce que vous avez eu à atteindre des résultats et que cela a eu un impact ? Ça, c'est effectivement aussi de l'expérience.
Le portfolio, oui. Et à côté, on peut mentionner sans beaucoup de détails, mais les portfolios viennent donc renforcer. Soutenir ces différentes expériences. Une autre question, c'est une jeune entrepreneur, aussi étudiante, en même temps elle est dans beaucoup de choses. Elle pose la question à lui, j'ai également des activités à l'église. Je gère, c'est moi qui fais les rapports, je suis la secrétaire et tout. Est-ce que c'est une expérience à inclure ?
Sur cette question-là, je me réserve un peu de répondre. Pourquoi je me réserve de répondre ? Parce que vous êtes dans un environnement laïque, ok ? C'est un pays laïque. Et on sait souvent que les questions de foi, etc., peuvent être... Hein, comment je peux dire ça ? C'est un peu entre guillemets. Donc là, ça dépend de la réflexion de chacun. Mais notez seulement un élément. Toutes les expériences que vous avez eu à avoir, vous pouvez réfléchir de quelle manière les capitaliser.
Alors, c'est quoi l'élément le plus important en tant qu'étudiant pour valoriser son parcours ?
Mettez-vous déjà dans la peau du monde professionnel lorsque vous êtes à la fac. Essayez d'enlever l'esprit que « toi, non, banane, chill, non, étudiant. » Non. Dites-vous, ce sont mes premières années d'expérience. Quand je suis en première année, ma relation avec les professeurs, ma relation avec les étudiants, ma relation avec le corps académique, etc. Essayez de capitaliser ces différents éléments.
Donc, il faut déjà se dire qu'en ce moment, bagarre et bandit siko.
Bagarre et bandit siko.
Vie professionnelle et bandit dans l'université, mais bandit déjà siko, il ne faut pas juste attendre après. Mais après, on parle également des trajectoires à l'université. Il y a certains, c'est études universitaires en même temps, et d'autres études, et ensuite université sciences strictes. Hein. Moi, d'abord, les études, et les parents parfois, ils sont comme ça. Maintenant, quelle est la meilleure trajectoire en tant qu'étudiant ? C'est vrai que c'est une question de choix, mais il y a certains qui sont stricts. À ses parents qui ont la tignio, la université, comme la foutre la classe. Sauf que l'ingouman de ça, là, yo mon mi foutre la classe na yo. C'est-à-dire que forcément, il t'oblige soit d'attendre le parcours universitaire, académique, c'est terminé pour rentrer dans le milieu professionnel et n'est pas combiné.
Je dirais simplement que la meilleure trajectoire est celle qui vous convient le mieux. C'est simplement ça. Vous savez, même si c'est normal, les parents ont leur raison. Il faut respecter cela. Il faut éviter d'aller dans un mindset où comme si on entre en guerre avec une certaine catégorie de personnes. Le plus important, c'est de comprendre. Ils ne veulent pas cela. Pourquoi ? Pour des raisons vraies. Mais si vous êtes capable de expliquer, de convaincre effectivement que vous êtes capable de manager les choses, ok, faites-le. Si c'est compliqué de manager, faites des compromis. C'est pas avec votre famille, avec les parents. C'est pas parce qu'on vous interdit de faire quelque chose que c'est-à-dire que vous n'allez jamais capitaliser certaines actions.
Donc on peut le faire en cachette ?
Non, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Okay. J'ai bien dit de ne pas entrer en conflit. Faire en cachette, c'est rentrer en conflit. C'est un choix individuel, ok ? Mais je dis ceci, vous êtes à la fac, effectivement. On vous interdit d'être chef des étudiants parce que c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Mais est-ce que cela va annuler le fait que vous aurez le travail en groupe ? Est-ce que cela va annuler le fait que vous aurez des fois des événements qui sont organisés, pas par vous, mais pour lesquels vous pouvez participer ? Est-ce que cela va annuler le fait que vous aurez l'occasion d'aller dans certaines foires ?
Quand il y a des événements, je rentre en retard, je ferai ceci, on va me demander, mais tu rentres à 7h, pourquoi ? Non, j'étais allé chez moi, l'assistante des communications, mais je t'avais dit de ne pas faire ça quand même.
C'est là où je reviens. On n'entre pas en conflit avec ces derniers. Mais moi, j'ai confiance à cet individu-là qu'il est capable de trouver des stratégies qui lui permettront au moins de mettre en application ce qu'on vient de dire. Capitaliser tout instant que vous avez à la fac, en famille, essayez de ressortir le lien qu'il y a entre ce que vous faites et comment est-ce qu'il vous sera utile demain dans le monde professionnel.
Moi, j'aimerais bien une chose. On va se baser sur ton expérience. Comment tu as fait pour capitaliser ton parcours universitaire ou académique ?
Moi, ça a commencé très longtemps. Bon, ce n'était pas à l'école primaire, mais c'était déjà aux humanités. Je crois qu'à un moment, je l'avais dit, je n'ai jamais été un étudiant brillant à l'école. C'est très compliqué par rapport aux matières. Les matières mathématiques et autres, moi, ça me tuait. Mais tout ce qui était langue, communication, j'étais très bon en ça. Ce qui faisait que très souvent, on me demandait d'être chef des classes. Pourquoi ? J'avais cette capacité à fédérer les amis, à discuter avec les professeurs, mais aussi avec la haute hiérarchie. Même si Nabarezita a, moi, il était selon le système scolaire. Okay? Mais quand j'arrive au niveau des humanités, je me dis, ok, je commence à avoir un goût de la commerciale. Pourquoi commerciale ? Mon père était dans le management, dans la gestion. Le fait, après l'école, d'aller chez lui au bureau, parce qu'ensemble, on allait aller à la maison, comme je faisais les écoles au Congo, les deux gants, etc. Je vois qu'il est là en train de faire quoi ? Il est là en train de discuter avec différentes personnes, de donner des injonctions et de les donner des instructions précises, de les motiver, etc. Je le vois aussi travailler avec la comptabilité, etc. J'ai pris le goût de faire quoi ? Commercial. Là, déjà, vous voyez...
Sans avoir des capacités à résoudre des calculs.
Pas encore. Mais regardez ce qui se passe. Le fait de voir quelqu'un de ma famille en train de manager m'a donné le goût de le commercial. Je me suis dit, dans ma tête, ça, je connaissais pas encore tous ces principes. Mais dans ma tête, première solution, je me suis dit, ah, ok, il manage les gens, il gère les gens, je vais faire ça, je fais commercial. Mais qu'est-ce qui se passe en commercial ? Comptabilité, j'arrivais à me débrouiller. Arithmétique, commercial et l'autre, et ça m'a tué ces branches. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de mon mieux. Comme à l'école, on a le système, vous savez, vous avez le cours de français, histoire, tous ces cours-là, j'ai réussi très bien, ce qui faisait que je passais avec la moyenne. Mais arrivé à la fac, un peu toujours perdu par rapport à ça, vous avez un seul choix au Congo, il n'y a pas beaucoup d'options. Il faut faire économie ou gestion. Malheureusement, dans le système dans lequel on se retrouve en économie, gestion, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez beaucoup de cours à caractère, mathématiques et autres. Mais moi, ça m'est tué. Un membre de ma famille encore vient, me montre l'expression de Einstein. Tout le monde est un génie. Et c'est là que tout change dans ma tête. Quand j'ai compris que je pouvais capitaliser sur mes compétences, qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? Je n'ai jamais été bidé à l'université. Hein? Mais ça dit quoi ? Dans nos groupes de travail, très souvent, je prenais le lead. J'ai commencé à m'intéresser aux questions de ressources humaines. J'ai commencé à assister à plusieurs forums. Dans un forum de ressources humaines qu'on appelait... c'est l'Association congolaise des professionnels de ressources humaines, je crois que c'est l'ACPRH, où j'ai rencontré les ressources humaines à l'époque de Canal+, Madame Sivi, qui est maintenant entrepreneur au niveau au niveau de Manitech, elle était RH, je crois, à DHL ou bien à Vodacom à l'époque. Très jeune, je crois que je devais avoir 18-19 ans. J'ai pris goût, j'ai appris. J'ai commencé à développer ces concepts. C'est comme ça, petit à petit, ce goût-là. Mon père étant dans le management, quand il y avait des problèmes avec les employés, il ne savait pas comment faire, je me mettais à lire, j'ai proposé des solutions, il mettait en pratique. Quand il met en pratique ces solutions, que ça marche au niveau de l'entreprise, je me dis quoi ? Ah ! En réalité, je commence à développer quoi ? Des compétences. J'ai capitalisé ces choses-là. Jusqu'aujourd'hui, je ne travaille pas avec lui, mais quand ils ont des problèmes, des conflits, c'est moi qui fais quoi ? Qui intervient et qui les aide. Aujourd'hui, je me retrouve dans quoi ? Dans la gestion de projets. Parce qu'avec les temps, travailler dans des projets de ressources humaines, c'est vaste. Maintenant, nous allons dans des projets un peu plus importants de développement du capital humain la source. C'est comme ça que je me retrouve ici aujourd'hui à discuter avec toi. Mais tu vois comment est-ce que le parcours... Mmh, tu vois
un long parcours, ça vient de très longtemps. Voilà. Et savoir donner de l'importance, n'est pas minimiser les moindres actions.
Tout à fait.
Et ça, c'est très fort. Merci beaucoup, Ray, en tout cas, pour ton partage d'expérience. On arrive déjà à la fin de notre émission. S'il faudrait résumer tout ce qui a été dit aujourd'hui en une phrase.
En une phrase, ce que je dirais, c'est « vous pouvez le faire ». Vous pouvez le faire. Et retenez attentivement cette phrase d'Einstein. Revoyez l'image. Vous êtes capable. Vous êtes des génies. Mais simplement, des fois, vous ne vous retrouvez pas toujours dans l'environnement, dans le contexte qui vous correspond. Et nous vous promettons que nous, nous ferons de notre mieux. Nous, Sodeico Développement, nous ferons de votre mieux, de notre mieux, de vous apporter des outils qui vous permettront d'éclairer votre chemin, qui vous donneront une carte qui vous accompagnera partout et vous aidera à faire des choix plus responsables et plus raisonnés.
Ça, c'est fort. Hein. Donc, tout génie s'est fait passer pour un génie dans un environnement qui lui est favorable. Et s'il n'est pas dans un environnement favorable ou approprié, il peut se faire passer pour un idiot. Donc, mettez-vous en valeur, identifiez vos talents et développez vos compétences. Ne minimisez pas les moindres actions que vous menez. C'est tout ce qui résume notre discussion dès ce soir, dès l'université à l'emploi. Vous pouvez valoriser votre parcours académique et bomber, sortir de l'université avec assez d'expérience. Merci beaucoup, Ray. On se retrouvera le mois prochain, les tout derniers mardis du mois de novembre pour un nouveau sujet et de nouveaux conseils.
Avec plaisir.
Merci.
But de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.